Depuis 2010, la Hongrie de Viktor Orban sort des clous, c'est-à-dire du respect des valeurs de l'Union européenne telles qu'elles sont définies dans les traités, notamment en matière de respect des contre-pouvoirs, particulièrement en matière de justice, mais aussi de médias. La crise migratoire de l'été 2015 a provoqué un afflux considérable, notamment en Hongrie, particulièrement de Syriens, qui ont mis sous pression le territoire et donné l'occasion à M. Orban de mettre en image la construction de barbelés pour protéger le pays. La question migratoire est devenue, par ailleurs, un objet de conflit avec l'Union européenne qui entendait faire respecter des valeurs humaines et humanistes par rapport aux migrants.
Est-ce que toutes ces provocations de la part de la Hongrie ne font quand même pas partie d'une stratégie politique anti-européenne ?
C'est devenu une ressource politique pour M. Orban, qui se saisit à travers ce référendum d'une occasion en or, de son point de vue, pour réassurer en 2016, au bout de 6 années au pouvoir, sa popularité auprès de larges pans de l'opinion publique hongroise qui voit, notamment parce qu'on les cultive dans cette idée-là, dans l'étranger, une menace. Donc on a ici une question extérieure, les flux migratoires, qui est utilisée d'abord à des fins de politique intérieure, réassurer l'assise politique de M. Orban, et à des fins extérieures, démontrer à l'Union européenne que M. Orban est assis sur un électorat qui pense, comme lui, qu'il faut exclure les étrangers plutôt que les intégrer. Je me garderai bien de présager du résultat de quelque référendum que ce soit. Il faut laisser à la campagne le temps de se dérouler, mais la question est formulée de telle façon que le oui pourrait l'emporter très probablement. J'ajoute que l'opposition à M. Orban est depuis plusieurs années divisée et je ne suis pas certain qu'elle sera mobilisée pour une réponse qui contrarierait M. Orban.
Quelles conséquences aura ce référendum dans une Union européenne déjà fragilisée par la sortie du Royaume-Uni ?
L'Union européenne est dans une période de polycrise, avec le Brexit bien sûr, mais aussi avec les conséquences politiques des crises sociales provoquées par la crise économique venue des États-Unis en 2008. Tout cela crée une période d'incertitude, de tension. Ici, l'affaire hongroise est à considérer puisque une nouvelle fois, cet État membre sort des clous de façon provocante à l'égard de l'Union européenne qui conteste la légitimité de ce référendum. On va dire que ça va rajouter une couche supplémentaire au passif entre la Hongrie et l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne ira jusqu'à mettre en œuvre les mesures prévues par les traités pour suspendre les droits de vote de la Hongrie au Conseil, ça n'est pas certain, d'autant que la Hongrie de M. Orban sait pouvoir compter sur le soutien de plusieurs pays d'Europe centrale et orientale, dont la Pologne, qui n'est pas un pays négligeable, loin de là. Autrement dit, ces pays peuvent maintenant se protéger les uns des autres, et nous avons là la démonstration, un peu plus de 10 ans après l'élargissement de 2004, que celui-ci a considérablement modifié l'Union européenne.
Est-ce que ce référendum, cette provocation de la part de M. Orban, pourrait donner naissance à d'autres initiatives de la sorte dans l'Union européenne ?
On s'expose à un effet domino, comme avec le Brexit, avec cette question concernant les migrants en Hongrie, puisque plusieurs pays d'Europe centrale et orientale sont très réticents à l'idée d'appliquer les mesures prévues par Bruxelles concernant les migrants. Cela renvoie à au moins 2 dimensions. Premièrement, ces pays ont récupéré leur souveraineté après la parenthèse soviétique de 45-89, depuis finalement assez peu de temps, et ils sont attachés à leur souveraineté, même s'ils ont consenti via l'adhésion à l'Union européenne à des transferts de souveraineté, il n'en demeure pas moins que ça reste un sujet sensible. Et quand ils sentent qu'un pouvoir qu'ils identifient comme extérieur, Bruxelles, veut leur imposer des mesures, cela provoque des réactions. C'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est que ces pays, pour beaucoup, n'ont pas véritablement de culture d'accueil des migrants, contrairement aux pays comme le Royaume-Uni et la France, qui sont d'anciennes puissances coloniales.
La Slovénie vient de prendre la présidence du Conseil de l'Union européenne. C'est un pays, on le sait, lui aussi très hostile à l'accueil de réfugiés. Alors est-ce que cela signifie que la Hongrie serait en quelque sorte à l'abri de sanctions de la part de l'Union européenne ?
La présidence slovène de l'Union européenne peut être un point d'appui pour la Hongrie, mais ça ne suffit pas à garantir véritablement à M. Orban de ne pas être sanctionné. Il y a d'autres pays qui pèsent lourd au sein de l'Union européenne. De toute façon, la difficulté, c'est que les traités prévoient que ces sanctions soient prises à l'unanimité. Donc, il est vrai que les États qui ont pensé les traités ont choisi, en cherchant à se sauvegarder eux-mêmes de sanctions, de multiplier les difficultés avant que soit prise une sanction contre un État membre parce qu'ils pensaient qu'un jour ce serait peut-être contre eux. Le résultat, c'est qu'on se retrouve coincé par la possibilité que plusieurs pays se protègent les uns les autres au sein de cette Union européenne. On est dans des situations que nous avons produites nous-mêmes. C'est ça qui est important à comprendre. Ça n'est pas une calamité, c'est le résultat d'un produit historique autour de la question centrale, qui est la question de la souveraineté, du partage de la souveraineté, de la réinvention d'une souveraineté partagée.